Bonsoir à tous. Pour une fois, je ne suis pas derrière le piano. Et je suis très honoré de pouvoir partager avec vous ce message sur la louange, parce que je crois, et on croit aussi à Soteria, l'importance de la louange par rapport à tout, le ministère aussi de l'adoration, par rapport au ministère d'intercession, par rapport au ministère du combat spirituel. Vous avez déjà remarqué que Ana Mendes, Ronnie Chavez et beaucoup d'autres l'ont bien compris. Et on essaye de travailler ensemble, pas en concurrence, pas l'un contre l'autre, mais vraiment ensemble avec tous les ministères que Dieu nous a confiés. C'est pour ça que dans cette formation l'intercession, on va aborder ce thème de l'adoration ce soir. Je vais donner deux messages, et puis le premier sera sur des fondements, et un deuxième qui va nous amener un peu plus loin. Mais je crois que ça va nous aider aussi à comprendre comment aller plus loin dans l'intercession. Parce que c'est une base sur laquelle on construit, voilà le thème, le premier, les trois dimensions de la louange. Alors on va prier, et puis ensuite on va entrer dans cet enseignement. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu es fidèle. On sait qu'on peut compter sur toi. Moi, mais aussi chacun d'entre nous, là où nous en sommes dans notre vie avec toi, nous avons besoin de toi. Et nous prions, Seigneur, que tu nous inspires, que tu nous aides à te suivre, à te comprendre, à te connaître. Amen. Alors, les trois dimensions de la louange. À force de travailler dans ce ministère-là, ça fait plus de 20 ans maintenant que je sers le Seigneur dans la louange, dans différentes églises, en Suisse et dans toute la francophonie. J'ai découvert que c'était un domaine beaucoup plus vaste que ce que je pensais même moi-même quand j'ai commencé. Vous savez, j'ai commencé comme peut-être beaucoup d'autres. J'étais dans une église, un groupe de jeunes, j'entendais les gens chanter, puis je chantais, quoi. Je faisais comme tout le monde, hein. Je trouvais ça sympa. C'était un peu différent des scouts parce que c'était pas les mêmes paroles. Mais on suit, quoi, hein. On n'est pas au coin du feu. Quoique au groupe de jeunes, on avait un petit feu, puis on était au coin du feu, quand il faisait pas chaud. Et puis on chantait avec une guitare, et puis on louait Dieu. Mais jusqu'à ce que je comprenne vraiment ce qu'on faisait, ça m'a pris du temps. Et même au début, je jouais, je commençais à accompagner les chants. Je faisais que d'accompagner, parce que c'était un peu la loterie à numéro. Il y avait quelqu'un qui proposait son numéro favori, 222. Alors voilà, on tournait les pages et on jouait le 222, etc., etc. Donc, on chantait, c'était bien, mais c'était vraiment en attendant la suite. C'était comme pour dire, on va chanter, puis après on verra ce qui se passe. Mais le moment important, c'est après le chant. Et puis petit à petit, on a commencé à vivre des moments dans le chant qui étaient un peu différents. On se disait, mais il y a plus que le chant. Il se passe quelque chose dans ces chants. Tout d'un coup, on sentait quelque chose. La présence de Dieu. Dieu qui parlait, des gens qui étaient touchés. Alors on s'est dit, mais c'est sérieux la louange. Et moi-même, c'est ce que j'ai commencé à comprendre. Jusqu'aussi un jour, on me demande pas seulement d'être le musicien de service, mais de commencer à conduire les gens dans la louange. Alors quand j'étais musicien, pour moi qui avais fait des cours de musique, c'était pas compliqué. Je jouais ce qu'on me disait de jouer. Mais dès le moment où on m'a demandé de présider la louange, ça a pris une autre dimension. J'ai commencé à prier, à me préparer, à être en contact avec Dieu. C'était pas juste être en contact avec les hommes, chanter leurs chants favoris, c'était être en contact avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on chante? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Et qu'est-ce que t'attends de nous? Et puis, tout d'un coup, il y a une autre dimension qui s'installe dans mon cœur et dans le cœur des gens. Alors, en lisant la parole, j'ai vu qu'il y avait la louange était très vaste, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait plusieurs dimensions. Et puis, on va essayer de les expérimenter un petit peu ce soir. Alors, on va passer à la première. On va lire le psaume 95. Ce sera écrit à l'écran. On peut passer directement, premier verset. Vous pouvez aussi regarder si vous avez des Bibles, mais tous les versets, en tout cas, une bonne partie vont apparaître ici. Psaume 95. Alors, dans ce psaume, on voit trois étapes qu'on va observer ensemble. Alors, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher, notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Ça, c'est l'introduction. Ça commence tout simplement par cela. On commence en disant, il faut qu'on y aille. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais quand on veut louer Dieu, il faut un départ. Il faut qu'on prenne une décision, qu'on entre dans une dimension. Et vous voyez, dans ce psaume, les premiers versets nous poussent à se bouger. Et je ne sais pas comment vous êtes, si vous bougez tout seul, le moteur se met en route tout seul, ou si des fois vous avez besoin de vous mettre un petit peu en route. Certains c'est le matin, d'autres c'est le soir, ça dépend du style de moteur, s'il y a des diesels ou essence. Mais on a chacun besoin d'un peu se motiver à un moment ou l'autre. Et là, le psalmiste, il y a beaucoup de psaumes qui nous disent comme ça, « Allez, bougez-vous, venez, chantez, poussons les cris de joie. » Allons devant lui. Donc, il y a un mouvement à faire. Il y a un déplacement à faire. Il faut entrer dans quelque chose qui bouge. Et il faut se bouger. On ne peut pas rester sur place pour entrer dans la louange. Alors, on peut peser sur le suivant. C'est un cercle. c'est pas compliqué. Alors, je vais vous parler de la cible. La cible de la louange, et c'est le premier cercle, la première cible qu'on cherche à toucher, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la première chose importante dans la dimension de la louange. Alors, je vais vous présenter certains textes qu'on trouve pour la reconnaissance dans la parole de Dieu. Premier texte, c'est dans Luc 17. Là, je vais vous lire, il ne va pas apparaître. On ne veut quand même pas tout faire, hein. Quand même travailler un petit peu, tourner les pages de la Bible, retrouver certaines choses, c'est intéressant. Certaines personnes disent, moi je vais louer Dieu quand Dieu m'aura touché, quand Dieu m'aura béni, là je vais le louer. Mais maintenant je sens rien, je vois rien, donc je ne peux pas le louer. Alors on a exactement l'exemple inverse. Je vous lis ce texte, Luc 17. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière entre la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance, se mirent à crier. « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont les 9 autres ?» Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu à part cet étranger ? Puis Jésus lui dit, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. C'est incroyable ce qui se passe dans cette histoire. J'arrive encore pas à comprendre comment c'est possible. 10 lépreux, vous imaginez ce que c'était la lèpre à l'époque de Jésus ? La pire chose qui puisse arriver. Des gens malades, mal dans leur peau, mal dans leur corps et en plus rejetés à cause de leur maladie. Puis ils étaient mis à part. Et ces gens-là, la seule chose qu'ils peuvent attendre, c'est soit un miracle, soit la mort. Et voilà qu'il se passe le miracle qu'ils attendent, qu'on espère qu'ils attendent, peut-être certains ne l'attendaient même pas. Et il se passe un grand miracle, et la seule chose qui se passe, c'est qu'ils continuent leur route. Ils continuent leur chemin, sauf un. Et quand cette personne, ce Samaritain, qui était encore étranger, en plus d'être malade, il a encore un problème de plus dans la société où il vivait, il était étranger, donc rejeté encore plus. Lui, il revient, il vient vers Jésus, puis il lui dit, il se jette à terre. Il ne dit pas juste, ouais, ben merci Seigneur, c'est sympa. Hein? Il agit vraiment d'une manière claire en montrant sa reconnaissance. Et Jésus lui pose la question, est-ce que les 10 n'ont pas été guéris ? Il n'y en a qu'un qui a pensé à dire merci. J'espère que ce n'est pas le pourcentage de reconnaissance qu'on trouve dans l'Église. J'espère qu'il y a plus que 10% de reconnaissance dans l'Église. Mais je crains que parfois, je suis sûr que vous avez tous vu des gens, des hommes, des femmes qui ont été touchés par Dieu, qui sont venus dans les réunions, dans les cultes, qui ont fait partie même de l'Église, qui ont été touchés, qui ont été guéris, délivrés, et qui n'ont eu aucune reconnaissance. Et ces gens-là, où ils sont ? Ils ont continué leur chemin, mais ils ne sont pas restés vers Jésus. Parce qu'il n'y avait aucune reconnaissance de leur cœur. Aucune reconnaissance de ce que Jésus avait fait. Et là, c'est ce que Jésus dit à cet homme, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. La reconnaissance a produit la foi. C'est une base. Le fait de dire merci pour ce que Dieu fait, c'est indispensable. Alors bien sûr, là en plus, c'est un immense miracle. Mais il n'y a pas besoin d'attendre l'immense miracle pour dire merci. Il y a tant de raisons pour dire merci. On va le voir plus tard. Alors, Romains 12... Verset 1. Connaissez ce texte. Offrez, je vous exhorte donc, frères, offrir vos vies comme un sacrifice vivant. On y reviendra plus tard, mais vous pouvez déjà noter ce texte comme référence. On va passer au suivant. Romains 1, verset 21-25. C'est tous ces textes, je vous les mets pour que vous puissiez prendre des notes et aussi utiliser ça par la suite pour vous-même, pour étudier à fond ou bien pour enseigner d'autres. Romains 1, verset 21, c'est très intéressant ce qu'il dit. Ils connaissent Dieu, c'est Paul qui parle, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire pour Dieu. Donc voilà, des gens qui connaissent Dieu mais qui ne remercient pas Dieu. Et quelle est la conséquence ? Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides, leur cœur insensé s'est rempli d'obscurité. Ils se déclarent savants, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des reptiles. Donc, le manque de reconnaissance amène quoi ? Les ténèbres, la stupidité même. Vous voulez réussir dans vos études ? Alors, c'est bien de louer le Seigneur. C'est bien d'être reconnaissant. ceux qui ne reconnaissent pas ce que Dieu a fait pour eux, ils sont dans les ténèbres. Et n'est-ce pas ce qu'on observe dans notre société d'une manière globale? Les gens manquent de plus en plus de reconnaissance envers Dieu, envers leur Créateur. Ils dénient complètement ce que Dieu a prévu. Et puis là, on parle même de gens qui l'ont connu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils détournent leur adoration. Et leur adoration se porte vers quoi? Vers des animaux, vers des hommes, vers des choses que Dieu a créées. Si on n'adore pas Dieu, si on n'est pas reconnaissant, on détourne notre adoration. Psaume 18, je vous laisse comme note, comme référence, c'est une reconnaissance pour toutes les choses que Dieu a faites, toute une description. Le psaume 136 aussi. Ce qui est intéressant dans ces deux psaumes, c'est qu'on voit la manière dont le peuple d'Israël et les Juifs étaient reconnaissants pour les choses concrètes. Ils n'avaient pas peur d'être concrets. Merci parce que tu m'as délivré de mon ennemi. Merci parce que tu m'as fait passer au travers des eaux. Merci parce que tu m'as sauvé dans cette situation précise. Ils décrivaient exactement les choses dans lesquelles ils étaient passés. Ce n'étaient pas des prières hyper spirituelles, planantes, où on n'y comprend rien. C'est des paroles basées sur le quotidien, sur leur réalité. Et c'est ça la reconnaissance. Il ne faut pas avoir peur d'être concret avec Dieu. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui j'ai vu ta main sur la route, tu m'as conduit, tu m'as protégé dans cette situation. C'est ça la reconnaissance, voir Dieu dans les choses concrètes. Psaume 139, vous le connaissez? Je te loue Seigneur de ce que je suis une créature. Ah mais vous le savez tous, c'est merveilleux. C'est bien de le savoir, de connaître dans la tête, mais il faut que ça descende dans le cœur. C'est indispensable. Si vous n'arrivez pas à louer Dieu pour qui vous êtes, vous n'arrivez jamais à aller plus loin. C'est un fondement aussi de la vie chrétienne. Alors pour certains, ça prend un petit peu de temps, hein, parce qu'on doit un petit peu corriger notre pensée surtout. Corriger tout ce qu'on nous a peut-être dit dans l'enfance, à la maison, à l'école, dans les relations qu'on a eues. Mais c'est absolument indispensable que chaque chrétien puisse dire un jour à Dieu, Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Puis mettez votre nom là-dedans. Dites votre prénom. Seigneur, vous regardez même dans le miroir. Puis vous dites, Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi, créature si merveilleuse. Je peux vous avertir, vous assurer que la première fois que je l'ai fait, c'était très difficile. J'ai l'impression que je n'arrivais pas à sortir mon nom. Je n'arrivais pas à le dire. La langue me brûlait, je ne sais pas ce qui se passait. Mais quand j'ai pu le proclamer, la première fois, c'était dur, mais après, j'ai pu proclamer de plus en plus. Et c'est une libération par rapport à ma personnalité, par rapport à mon identité. Dieu ne s'est pas trompé quand il vous a créé. Amen. Vous êtes tous si beaux, surtout depuis là en haut, je vous vois bien. C'est l'avantage quand on est sur scène. Dans la louange aussi, c'est un avantage incroyable. Moi, je vois les gens qui lèvent les mains, qui dansent, qui adorent, qui prient, mais c'est génial. Ça fait du bien et c'est ça qui encourage aussi à continuer de l'adorer. Donc, louez-le avec le psaume 139. Prenez ce psaume en entier et dites merci Seigneur. Après chaque verset, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Merci Seigneur, m'a tissé. Vous imaginez ça? Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait du tissage? Ça ne se fait pas comme ça en 30 secondes. Ça prend du temps. Chaque chose est pensée, chaque parole, chaque geste. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut louer Dieu. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 5, c'est Paul, et je vous le mets aussi comme référence, je ne vais pas le lire maintenant, mais comme beaucoup dans toutes les épîtres de Paul, presque, en tout cas dans chaque livre de Paul, au moins il y a une fois la reconnaissance. Il dit merci, je rends grâce à Dieu pour vous tous, je rends grâce pour la situation dans laquelle je me trouve, je rends grâce pour les églises, tout le temps, ça fait partie du langage de Paul. Ce n'est pas quelque chose qui doit se fabriquer, qui fait de manière religieuse. C'est quelque chose de naturel pour Paul. Il pense à quelqu'un, il rend grâce pour cette personne. Il pense à une église, il rend grâce pour cette église. Il pense à une mission, il rend grâce. Il pense même à une épreuve, il dit « je rends grâce à Dieu ». C'est incroyable la reconnaissance qu'il y a dans son cœur. Philippiens 4, versets 11 à 13. Celui-là, vous devez le connaître, je pense. Certains le connaissent. C'est très important. Je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. C'est aussi Paul. J'ai en effet appris à me contenter de ce que j'ai. Ça, c'est tout un programme. On prépare les 2 heures, juste ce verset-là. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'ai à manger ou que j'ai faim, que j'ai trop, que je n'ai pas assez. C'est presque difficile pour nous de faire cette prière en Suisse parce qu'on n'a jamais pas assez. On n'a jamais rien. Mais peut-être qu'il viendra un temps où ça va arriver. Et puis, il ne faut pas oublier que les trois quarts du monde sont dans une situation où ça leur arrive encore. Mais nous, on a perdu cette habitude parce qu'on est dans une abondance qui est un piège, finalement. Surtout dans notre relation avec Dieu, c'est un piège terrible. Alors, ce qui fait que nous, il suffit qu'il nous manque quelque chose, puis on se plaint. Vous avez remarqué ça? On se plaint parce qu'on a l'habitude de parler des droits, mes droits, les droits de l'homme et de la femme, bien sûr, hein? Mes droits à moi. Et même devant Dieu, on va avec mes droits. Mais c'est qui a les droits? Qui est celui qui mérite toute chose? Moi, j'oserais pas me présenter devant Dieu pour lui dire, Seigneur, tu sais, j'ai le droit aujourd'hui, etc., etc. Je dis merci pour ce que tu m'as donné. Alors ça, oui, j'oublie jamais une occasion de lui dire merci. Mais je ne vais pas aller lui réclamer mes droits. C'est Dieu qui a des droits dans nos vies. Le droit qu'on le serve, qu'on lui obéisse, qu'on marche à sa suite. Et apprendre à se contenter de ce que nous avons, c'est quelque chose de très difficile. Et ça commence déjà dès l'enfance. Et aujourd'hui, dans l'éducation, ce qu'on enseigne, c'est que l'enfant a le droit d'avoir tout ce qu'il veut. L'enfant roi, l'enfant qui contrôle, l'enfant qui domine. Et c'est difficile, après, en tant qu'adulte, de changer. Et ce n'est pas facile d'apprendre aux enfants. Hein, on en a quatre, on sait ce que c'est. Parce que la comparaison, les autres, etc., etc. Mais c'est un principe tellement important. Pouvoir apprendre cela et dire merci pour des choses toutes simples. Et se contenter de ce qu'on a. Donc, si on est prêt à faire peut-être cette éducation envers nos enfants, que soyons prêts aussi à le montrer en exemple. Parce que si les parents ne se contentent pas de ce qu'ils ont, mais ils essaient de l'éduquer à leurs enfants, ça ne marchera pas. Il faut aller dans les deux sens. Hein. C'est très important. Donc, le contentement fait partie de la reconnaissance. Si on est content de ce qu'on a, on peut déjà dire merci, sans vouloir toujours plus. Et s'il y a plus, ben, c'est une grâce, c'est un cadeau. Mais on veut déjà dire merci pour ce qu'on a. Alors, on va passer à suivant. La reconnaissance, qu'est-ce que c'est? Alors, voilà des choses pratiques pour lesquelles vous pouvez dire merci. Merci pour la vie. Si Dieu vous a donné la vie, c'est déjà un cadeau. Dites merci pour votre propre vie. Puis bien sûr pour la vie des autres. Merci pour la santé. Souvent les chrétiens, ils attendent d'être malades. Quand ils sont bien malades, ils demandent à l'église de prier. Quand ils sont guéris, ils vont dire merci. J'espère que vous n'attendez pas toutes ces étapes-là. Hein? Puis que vous pouvez déjà dire merci Seigneur pour la santé que tu m'accordes. C'est une grâce. C'est une grâce d'être en bonne santé. Merci pour qui je suis. On revient au psaume 139. Merci pour les biens, les choses matérielles, pratiques, sans en abuser, sans que ça devienne notre idole. Mais c'est une grâce aussi. Toutes les choses pratiques qu'on a, on peut dire merci pour Dieu, à Dieu pour cela. Merci pour le travail. La même chose, n'attendez pas d'être au chômage pour faire une réunion d'intercession pour retrouver du travail. Merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné. Merci parce que tu prends soin de moi, tu pourvois mes besoins. Même si vous avez des capacités, que vous êtes intelligent, que vous avez un diplôme, que vous travaillez, ça vient de qui tout ça? C'est qui vous a donné ces capacités, ces dons, ces possibilités, ces études, tout ça? C'est Dieu qui vous a permis d'être là. Donc, bénissez-le pour le travail qu'il vous a donné. Et surtout en pensant à tous les autres, peut-être aussi, qui n'en ont pas. Merci pour la famille. Ça, ça peut être un sujet délicat parfois. Hein? Parce que vous ne l'avez pas choisi. Hein? Il y en a qui auraient peut-être choisi autrement. Peut-être qu'ils auraient choisi d'autres personnes, mais c'est aussi un cadeau. C'est un cadeau que Dieu vous a donné. Chacun des membres de votre famille, c'est un cadeau que Dieu vous a donné. Et Dieu vous a placé dans cette famille aussi pour que vous puissiez bénir cette famille. Même si vous êtes le seul chrétien de cette famille. Et si vous le faites, vous allez voir que vous n'allez pas rester le seul chrétien de cette famille. Ça va continuer et ça va changer. Merci pour mon pays. Toutes ces choses-là, vous verrez, bien sûr, c'est des choses qu'on voit dans l'intercession. On prie pour le travail, on prie pour la famille, on prie pour le pays. Mais d'abord, apprenons à dire merci, à être reconnaissant pour ce qu'on a. Si on lit les journaux, si on écoute les nouvelles, on voit que jamais personne n'est satisfait de rien. Non seulement on n'est pas content de ce qu'on a, mais en plus on se plaint de sa famille, on se plaint de son pays, on se plaint de son gouvernement, on se plaint de tout. Je dis pas qu'il faut être aveugle, qu'il faut fermer les yeux, mais apprenons à être reconnaissants pour les choses qui sont autour de nous, sont importantes. Merci pour les autres autour de nous, bien sûr. Là, il y en a déjà un de chaque côté, normalement, à peu près. Hein? Vous pouvez dire merci au Seigneur pour votre voisin, votre voisine. Vous pouvez le lui dire à côté. Mais aussi, vos voisins à la maison, vos voisins où vous habitez, vos collègues de travail, Partout, il y a des gens autour de vous. Un merci concret. Je revenais à ce que je disais tout à l'heure. Soyez concret dans votre reconnaissance. Quand vous priez, avec reconnaissance, dites des choses précises. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu m'as donné ça, parce que j'ai reçu ça, parce que j'ai vécu ça. Dieu aime la reconnaissance. Merci pratique, dans le même sens, les choses pratiques que vous vivez. Un merci à long terme. Ça veut dire que la reconnaissance, c'est pas juste à Noël ou à votre anniversaire, parce que vous avez reçu un beau cadeau. Hein? Il y a des gens, ils attendent toujours des cadeaux, ils aiment les cadeaux. Mais si on ouvre un petit peu les yeux, on va voir des beaux cadeaux. Des fois, c'est un lever de soleil. Des fois, c'est une rencontre. Des fois, c'est un coup de fil. Des fois, c'est une parole. Ça, c'est des choses incroyables pour lesquelles on peut dire merci. Et ça doit être quelque chose qui persévère dans votre vie. Merci de soumission. C'est une attitude, la reconnaissance. Merci parce que, Seigneur, tu m'as donné la vie et je reconnais que tout vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent viennent de Dieu. Hein? C'est dans Jacques, il y a ce texte. Merci quotidien, donc à long terme, mais aussi quotidien. Encore une fois, on ne veut pas entrer dans du religieux, on va dire, ah, 7h05, attention, c'est l'heure où je dois dire merci. Non. Ou bien il y a des chrétiens qui disent merci à tous les repas, c'est des bons chrétiens, à tous les repas de midi, ils disent merci. Mais alors, à déjeuner, jamais. Puis aux 4h, non, pas aux 4h, ça sert à quoi, non. C'est bon les 4h. Mais vous pouvez dire merci à tous les moments, hein. Puis même si un jour vous jeûnez, vous pouvez dire merci. Surtout si vous jeûnez, puisque si vous jeûnez, c'est pour prier. Donc, profitez de ce temps pour dire merci au Seigneur. Un merci basé sur la vie, reçu un cadeau. N'oubliez pas que c'est un cadeau. Tout ce que vous avez, c'est cadeau. Si vous pensez comme ça, ça ira beaucoup mieux. Si vous pensez à tout ce que vous n'avez pas, c'est comme le verre à moitié plein, à moitié vide. Gardez déjà ce que Dieu vous a donné. C'est la reconnaissance. On va continuer dans notre psaume, psaume 95, on va plus loin. Les deux versets suivants nous font entrer dans la deuxième dimension. L'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors là, on voit, tout d'un coup, c'est plus nous qui nous déplaçons, c'est plus nous qui faisons une action de reconnaissance, on commence à regarder Dieu. On entre dans la deuxième dimension. La deuxième dimension, alors on a le premier cercle, la reconnaissance. Deuxième cercle qui est à l'intérieur de la cible, c'est la louange. Alors en français, on utilise le terme louange pour tout d'une manière globale. On dit c'est de la louange. Mais maintenant, je vous parle de la louange spécifique. J'ai déjà séparé la reconnaissance. Maintenant, je parle de la louange. La louange, qu'est-ce que c'est? C'est justement regarder à Dieu, regarder qui il est. Dans la reconnaissance, on regarde sur la terre, on regarde autour de nous, on ouvre les yeux sur ce qu'on a, sur ce qu'on est, sur ce qu'on voit. Dans la louange, on regarde plus à nous. On commence à regarder à Dieu. On commence à lever les yeux, à regarder plus haut. Alors, on a quelques textes qui sont très intéressants, qui nous parlent de ça. Job, si vous lisez ce texte, ça va travailler, hein. Je sais pas comment vous lisez Job, mais on peut pas le lire comme ça, de loin. Ça nous touche en voyant ce qu'il a vécu. Et dès le début, on voit tout ce qu'il a perdu, tout ce qui lui manque, et ce verset incroyable qui dit, Job 1:21, sa femme, attention, parce qu'est-ce qui se passe? Il répond à sa femme lui dit, elle en a marre, là elle n'en peut plus, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a perdu, maudit Dieu et meurt. Voilà le conseil de sa femme. Il y a des conseils qui ne sont pas faciles, hein, des fois. Et surtout quand ça vient de quelqu'un de très proche. Et qu'est-ce que Job répond? Il répond au verset 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. J'espère vraiment qu'on n'a pas besoin d'en arriver au stade de Job pour entrer dans cette reconnaissance, dans cette louange. Mais on voit qu'en tout cas chez lui, c'est vrai que c'était un homme intègre, un homme droit, un homme qui devait être un des plus valeureux chrétiens qui puisse être, puisque Satan a cherché justement à le faire tomber lui et à accuser Dieu, à l'accuser lui devant Dieu, en disant, bon, celui-là c'est normal, tu le bénis, c'est pour ça que tout va bien pour lui. Donc, il devait être vraiment quelqu'un qui avait toutes les bénédictions de Dieu parce qu'il obéissait à Dieu, parce qu'il marchait dans les plans de Dieu. Et il lui arrive ce malheur et quand même, dans la pire des situations, il bénit Dieu. Donc, ça nous montre bien jusqu'où la louange va aller. La louange, c'est pas pour ce qu'on a, pour ce qu'on possède. C'est à cause de qui est Dieu, tout simplement.
Donc tout peut changer autour de nous, tout peut s'écrouler, on peut changer, les choses peuvent changer. Dieu reste Dieu. C'est pour ça que la louange continuera toujours. Même si vous changez, même si l'Église n'existe plus, même s'il y a un chamboulement incroyable sur la planète, la louange va rester. La louange va rester parce qu'elle est basée sur qui est Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Psaume 103. Bénis l'Éternel, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et puis tout le psaume décrit ce que Dieu fait. Ça parle de Dieu, bien sûr, des choses qu'il fait pour nous. Donc ça nous décrit un Dieu qui agit, qui a l'œuvre. Et c'est aussi ça qui donne des sujets de louange, bien sûr. Dieu, c'est le Dieu qui guérit. Dieu, c'est le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit, le Dieu qui me protège, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de textes comme ça dans les psaumes et bien sûr dans d'autres endroits qui nous parlent, qui nous décrivent qui est Dieu. Et chacun de ces textes sont des inspirations pour la louange. Psaume 97, ça parle du Seigneur roi, roi de la terre, roi des nations, dans le ciel, tout ce qui se passe, comment les anges, comment les autorités l'adorent, le louent, et puis ensuite, à nous aussi de l'adorer et de le suivre. Donc, voilà, des descriptions, c'est, tout ça c'est des références pour vous. Le psaume 47 aussi, vous tous les peuples, battez des mains, poussez des cris de joie vers l'Éternel, ça nous montre ce que c'est cette louange. Psaume 105, description formidable aussi de l'adoration, de comment on peut le louer, comment on peut être fier de louer notre Dieu parce qu'il est ce qu'il est. 1 Chronique 29, versets 10 à 20. J'aime beaucoup ce texte, c'est celui-là que je vais le lire. Parce que c'est David qui l'écrit. Et David, il faut bien comprendre que c'est un exemple incroyable dans la louange. Puisque David, il a reçu une révélation de Dieu incroyable, exceptionnelle. David a écrit un tiers des psaumes. Les psaumes sont le livre d'inspiration même de la louange. C'est les chants que les juifs chantaient. Vous savez, à l'époque, c'était pas un livre qu'on lisait. Ils chantaient les psaumes. C'était leur recueil de chants, leur psaume et cantique, foi et louange, j'aime l'Éternel, de l'époque. Ils les chantaient, ils les savaient par cœur. Ils n'avaient pas de rétroprojecteur, pas d'ordinateur, ils n'avaient pas de livre de chants. Ils connaissaient ces psaumes par cœur, ils les chantaient. Donc, si on veut s'inspirer, c'est bien de prendre les psaumes. C'est bien de les utiliser dans notre louange. Et David, qui en a composé une bonne partie, était un vrai adorateur. Il a mis sur pied les Lévites. Il a développé le système des musiciens du tabernacle avec une louange 24 heures sur 24. Et c'est un exemple très, très inspirant. Et à la fin de sa vie, David, qui pensait pouvoir construire le temple, il n'a pas réussi, il n'a pas été jusqu'au bout, mais il a déjà fait un bon bout. Il a déjà fait comment un bon bout? Il a déjà bien préparé les choses, il a déjà commencé à bâtir le temple, il a surtout bâti la vie dans le temple. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'en Suisse, on fait l'inverse. On construit un temple avec des belles briques, des beaux murs, une belle moquette, tout, puis après on essaye de mettre la vie dedans. Mais il n'y a pas de vie. Tandis que là, c'est le contraire. Il y avait de la vie, il y avait la présence de Dieu, il y avait déjà l'arche, il y avait déjà les musiciens, les chants, puis ils ont mis un mur autour de la vie. Puis ils ont dit, voilà, là, on va se rassembler. Mais la vie était déjà là. Et c'est ce qui va se passer exactement la même chose avec une cellule de maison, un groupe de prière. S'il y a la vie, ça ne sera pas difficile d'élargir et puis d'agrandir et de trouver des murs pour se retrouver. Ce qu'il faut, c'est la vie. C'est pas les murs. Pas les murs qui comptent, n'est-ce pas? Donc, David, à la fin de sa vie, il rassemble tout le peuple. Il donne son testament devant tout le monde. Il dit, voilà, c'est Salomon mon fils, c'est lui qui va finir de construire. Et il explique tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné. Et voilà ce qu'il prie. C'est une prière de louange incroyable. Dieu, loué sois-tu en tout temps, Seigneur, Dieu de notre ancêtre Jacob, au verset 10. C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Ça, c'est de la louange. Oui, dans le ciel et sur la terre, tout appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. Il faut bien comprendre que c'est le roi qui est en train de parler. Le roi devant tout le peuple qui dit la puissance, l'honneur, le roi, c'est toi. Ça donne beaucoup plus de poids encore qu'un petit chrétien au fond de la salle qui prie, n'est-ce pas? Quand c'est le roi devant son peuple, devant son gouvernement, devant ses militaires qui déclare ça. La richesse et la gloire, la richesse et la gloire viennent de toi qui domine sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever, de fortifier qui tu veux. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons et nous glorifions ton nom merveilleux. Écoutez ce verset incroyable, verset 14. Je ne suis rien, mon peuple n'est rien. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons le pouvoir de t'offrir ces dons. Nous avons tout reçu de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui vient de toi. Et au début de ce chapitre, on a 10 versets qui décrivent toutes les quantités d'or, d'argent, de bronze, de bois, de fer, de métal, tout ce qu'ils ont donné. Des tonnes et des tonnes. Ils ont donné bien plus que la dîme. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour Dieu, puis après ils disent, ben, tout ce qu'on a donné, ça vient que de toi. Nous, on met une petite pièce, puis on dit, ouais, Seigneur, c'est de toi, hein, je te redonne. Puis on garde le gros billet. On a vraiment besoin de changer de mentalité. David avait compris quelque chose. Il dit, mais si Dieu est si grand, il mérite que je lui donne tout. Tu donnes le meilleur. Et c'est ce qu'il veut. Donc, je vous encourage à creuser ce chapitre 29 pour comprendre ce que c'est la louange. Alors, on va continuer maintenant quelques aspects pratiques. Alors, toutes ces choses qu'on a lues, voilà ce qu'on peut comprendre aussi d'après les mots hébreux, d'après les mots grecs, ce que c'est vraiment la louange. Déclarer qui est Dieu. On fait une déclaration. Roulement de tambour, sonner la trompette. Voilà, Dieu est. Et grand, puissant, majestueux, etc. Toutes ces choses qu'on trouve dans la parole, on les déclare. Il y a à peu près 250 noms différents de Dieu dans la parole. 250 noms. Chacune de ces noms sont des déclarations de ce qu'il fait, de ce qu'il est. On proclame ses qualités et on a tellement besoin de se rappeler ça parce qu'on entend tellement de mensonges sur Dieu. Si on écoute la radio, les journaux, nos enseignants, nos professeurs, qu'est-ce qu'on va entendre sur Dieu ? Que des mensonges et des stupidités. Alors, on a besoin de proclamer vraiment dans la louange quand on est là et que ça nous pénètre ce qu'il est vraiment. Et bien sûr, c'est inspiré par la parole. Glorifier le Seigneur, lui donner la gloire, ce qu'il est. Dire du bien de Dieu, de la même manière que vous allez décrire peut-être un ami qui est sincère, qui est fidèle, qui tient la route. Vous allez parler de cet ami à quelqu'un au téléphone ou comme ça. Eh bien, la même chose, on fait ça avec Dieu. Mon Dieu est si grand, il est si puissant, il a fait ci, il a fait ça. C'est ça que je veux dire, que je veux déclarer. Témoigner de ses qualités, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est. On en témoigne, bien sûr, parce que quand on prie, quand on loue, c'est qu'on dit quelque chose. Ça ne peut pas rester dans notre cœur. Les chrétiens qui me disent, moi je loue Dieu à l'intérieur, ça me pose un problème. Parce que la Bible parle que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc si dans ton cœur, il y a une abondance de louanges, elle va sortir. Non ? Elle ne peut pas rester, ce n'est pas possible. Donc si ça ne sort pas, c'est que peut-être elle est bien, bien, bien enfouie. Et il faut que ça sorte. Célébrer sa personne. On n'a pas peur de faire la fête autour de Dieu, au sujet de Dieu. Apprécier ses noms, comme je vous ai parlé, c'est 250 noms différents. Prenez un seul nom de Dieu et tâchez de réaliser. Je suis le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un chemin avec des cailloux. Non, ça veut dire qu'il nous montre la direction. Ça nous ouvre dans une forêt. S'il y a un chemin, on est bien content parce qu'autrement, on ne saurait pas où passer. Ça apporte beaucoup de choses. Il est le bon berger. Ça veut dire quoi, bon berger? Quelqu'un qui s'occupe de ses brebis, qui va rechercher la brebis perdue, qui va les soigner, qui va les nourrir, qui va leur donner à boire. Chaque nom veut dire beaucoup de choses. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. Si on apprécie vraiment Dieu, c'est ça dans la louange. Quand on loue Dieu, en toutes circonstances. Les gens qui louent Dieu quand tout va bien, c'est très facile. Tout le monde peut le faire. Quand on est béni, rempli, que tout va bien, que tout le monde est content et gentil, mais c'est facile de louer Dieu. Il n'y a même pas besoin de se forcer. Et si vous ne le faites pas là, alors vraiment, il y a un problème, hein? Mais louer Dieu quand c'est plus difficile, quand il y a des obstacles, quand il y a des circonstances qui vont pas comme on veut, quand on n'a pas les réponses à toutes nos prières, c'est parfois un peu plus difficile, mais ça portera beaucoup, beaucoup plus de fruits. Encore plus. Et Dieu nous fait tous passer par des circonstances, on doit apprendre à louer même que tout va pas comme on veut. Donc, le louer en toutes circonstances, c'est important. Louer Dieu, virgule, pas les choses ou les situations. Je fais cette petite parenthèse parce que certaines fois, on a enseigné peut-être à l'extrême, la louange, dans le sens où on disait il faut louer Dieu pour toutes les circonstances. Moi, j'ai bien mis en toutes circonstances. Je ne vais pas louer Dieu pour la maladie ou pour les problèmes que j'ai, pour un accident, etc. On enseigne assez à Soteria toutes les conséquences des malédictions, des tentatives de l'ennemi de nous détruire. Donc, ça serait un petit peu masochiste de dire « Merci Seigneur, j'ai un cancer, c'est bon, tu vas me guérir, tout ça. » Non, Seigneur, je n'accepte pas ce cancer, j'accepte pas cette maladie, je vais la combattre. Mais je te dis merci parce que tu es là pour combattre avec moi et parce que je peux compter sur toi. C'est ça, louer Dieu en toutes circonstances. C'est pas dire merci, Inch'Allah, fataliste, etc. Oui, oui, c'est Dieu le veut, etc. Ça donne gloire pas à Dieu, justement. Donc, faisons attention, on loue Dieu, on loue pas les circonstances, pas les choses ou les situations. Parce que ça, c'est un détournement de la louange. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça, c'est un verset fantastique, c'est le dernier verset des psaumes. C'est tout simple, mais ça met tout le monde dans le même paquet. Hein? Il y a aucune excuse qui reste. Oui, mais moi, j'ai pas de voix. Mais tu respires, ben, tu peux louer Dieu. Oh, moi, je chante faux, ben, tu peux louer Dieu. Moi, je suis trop vieux. Non, tu peux louer Dieu. Moi, je suis trop jeune. Non, tu peux louer Dieu. Si tu respires, tu peux, et pas seulement tu peux, tu dois louer Dieu. Alors, quand on met des catégories dans la louange, dans l'église, même il y a des musiciens, des gens qui sont très intentionnés, qui veulent mettre des catégories. Ceux-ci peuvent louer, ceux-ci peuvent pas louer. C'est complètement faux. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, c'est pour tout le monde. On va à la suite du verset, on est dans la troisième dimension. Psaume 95, versets 6 et 7. Attention, on change d'atmosphère, on change d'attitude. On était en train de contempler Dieu, tout à coup, on se rappelle qui on est, on se remet en place, et puis on vient avec une autre attitude. Au début, on venait, on bougeait, on sautait, on criait. Maintenant, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. L'attitude a un petit peu changé, n'est-ce pas? Et c'est le même psaume. Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix. Tout d'un coup, le rythme a baissé. Ça ne veut pas dire que l'intensité a baissé, au contraire. Et on va voir les cercles maintenant qui apparaissent. Alors, premier cercle, la reconnaissance. Deuxième cercle, la louange. Troisième, l'adoration. Il y en a qui avaient déjà trouvé, c'est bien. Des bons élèves. Ça veut dire que vous pourrez redonner ce message, il n'y a pas de copyright, vous pouvez l'utiliser, l'enseigner à tout le monde, c'est biblique, c'est tout, ça ne vient pas seulement de moi, je l'ai pris dans la parole. L'adoration, c'est le centre de la cible. C'est le centre du cercle. C'est ce qu'on vise. L'adoration, c'est ce qu'on vise. Quand on commence à toucher, à viser une cible, je ne sais pas pour vous qui avez fait du tir militaire, ces messieurs, ou les dames qui ont essayé de jouer aux fléchettes, ou les deux, on cherche quoi? Atteindre la cible. Au début, on ne sait pas trop si on va y arriver. On a trois flèches, on se dit, oh, si j'arrive au moins à les mettre dans la cible, puis on en met une. Puis après, on se dit, bon, quand même, je veux que j'y arrive. On s'entraîne un peu, on met les trois flèches dans la cible. Puis une fois qu'on a mis les trois flèches, on se dit, ben, il faut que j'atteigne le centre. Et puis on essaie de mettre les trois dans le centre. Puis quand on y arrive tous les coups, ben, on recule d'un mètre, de deux mètres, jusqu'à ce qu'on continue. C'est exactement la même construction qu'on veut vivre dans la louange. Au début, il y a le cercle de la louange, on ne sait pas trop ce que c'est. On voit des gens qui chantent, qui prient, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Puis on suit un peu, on est loin un petit peu. Puis petit à petit, on commence à entrer dans cette cible, à connaître la reconnaissance, puis la louange. Puis tout d'un coup, on touche le centre de l'adoration. Et ça, on est content quand on a réussi à atteindre le centre. Parce qu'il y a une autre dimension qui se donne. Vous savez, adorer, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est le plus grand problème qu'on a. En français, le mot adorer, il est piégé. On utilise adorer à toutes les sauces. C'est le cas de dire, hein. J'aime une bonne sauce, j'aime une bonne entrecôte, j'aime une bonne bouteille, j'aime ce chanteur, j'aime cette nourriture, j'aime cette voiture, j'adore cette voiture, j'adore ça. Et puis tout d'un coup, on s'emballe, puis on adore tout. Hein. Moi, j'ai dit une fois dans une rencontre en France, j'étais dans le sud de la France, je dis par exemple, moi je dis j'aime bien le miel, mais je dis pas que j'adore le miel. Puis le lendemain, il y a quelqu'un qui m'a apporté un pot de miel à la Réunion. Comme mon fils aime bien le miel, il dit, tu raconteras cette histoire partout, mais je veux pas en retrouver avec trop de pots de miel. Hein. Simplement pour dire, dans notre langage courant, qu'en français on est piégé, en anglais, en allemand, dans d'autres langues, il n'y a pas le même mot pour adorer Dieu. Et ça donne une petite différence. Le mot adorer, vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire venir devant le roi, se prosterner pour lui embrasser la main. Voilà. Mais s'il faut mettre ça chaque fois dans la Bible qu'il y a le mot adorer, ça fait des longues phrases, hein. Venir devant le roi, se mettre à genoux, il y a quelqu'un qui m'écoute bien, c'est super, et lui embrasser la main. Venir devant le roi, se mettre à genoux, lui embrasser la main. Donc ça montre l'attitude du respect. Et on a vu dans ce psaume 95 comment le psalmiste entrait, prosterné, à genoux, humilié devant Dieu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas en opposition avec ce qu'il y avait avant. Il y avait la reconnaissance, il y avait la louange, il y a l'adoration. Ce que je vois malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui font que de la louange, que de la reconnaissance ou que de l'adoration. Certaines églises disent, nous on est l'église de l'adoration. Devant Dieu, il faut le respect, il faut le silence, il faut être à genoux. Et puis surtout pas taper dans les mains, pas faire de bruit. Dans d'autres églises, c'est le contraire. Il faut crier, il faut bouger, il faut danser, il faut que ça transpire tellement que s'il y a 2 secondes de silence, ça va pas. Mais regardez les psaumes, il y a toutes les émotions dans les psaumes. Autant la joie extrême, les cris de joie, et puis vous avez déjà vu les juifs quand ils dansent. Hein? C'est les hommes qui montrent l'exemple, puis ils sautent haut, hein? Et ils bougent, et ils y vont. Et ils dansent. Et en même temps, le respect profond. Se mettre devant lui et l'adorer. Et voilà les 3 dimensions. On ne peut pas les opposer, on ne peut pas dire qu'il n'y en a qu'une qui est vraie. Il faut essayer de les vivre les 3 dans notre adoration personnelle ou communautaire. C'est valable pour les 2, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le centre de la cible? On va lire un texte très intéressant, celui-ci va apparaître. Ésaïe 6. Qu'est-ce qui se passe au centre de la cible? Voilà. Je vous lis à mesure et puis tu avances. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe a une vision. Qu'est-ce qu'il voit? Des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face et 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ça vous fait pas penser à d'autres textes, hein? Hein? L'Apocalypse, il y a plusieurs textes qui sont très semblables. Mais ça, c'est le seul texte qu'on a dans l'Ancien Testament qui décrit comme ça le trône de Dieu. Mais on voit que c'est la même chose qu'il y a dans l'Apocalypse. Donc, il est vraiment emporté dans le ciel, et ils voient ce qui se passe dans l'adoration. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par les voix qui retentissaient, la maison se remplit de fumée. Vous imaginez ça? Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir la télé, le cinéma, 3e dimension et tout ça, hein. Donc quand il a vu ça, c'était vraiment la première fois qu'il voyait une vidéo, hein. Il a dû être vraiment impressionné. Mais c'était vrai. Et il savait que c'était vrai. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Depuis qu'il y a un chant qui prend ses paroles, pas mal de gens ont redécouvert ce texte. Mais je crois qu'il est fondamental et qu'il explique tout ce cheminement que je vous ai présenté. Là, il se trouve vraiment dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais malheur à moi. Et c'est une bonne réaction. Et j'espère que quand vous êtes vraiment devant le trône de Dieu, si vous avez une vision comme ça, ou des fois dans la louange, dans l'adoration, il y a des moments forts où on se dit, mais « Ouh là là, mais qui suis-je pour être là? Je ne suis pas digne d'être là. » Et c'est une bonne réaction. Parce que sans Dieu, on est perdu. Sans sa grâce, sans Jésus, sans le sacrifice, on est perdu. On est impur, on est homme, on peut pas. Alors celui qui se tient tranquille dans la présence de Dieu, « Moi, tout va bien, c'est bon. » Il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Ésaïe, le grand prophète Ésaïe, qui sert Dieu, parce que c'est au 6e chapitre, ça fait déjà 5 chapitres qu'il prophétise, hein. Il n'est pas en train de démarrer, là. Il est déjà au boulot. Il est déjà dans l'œuvre de Dieu. C'est un homme qui connaît son Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi. Et vous pas oublier qu'on est dans l'Ancien Testament, donc il peut pas crier, Jésus, ton sang me purifie, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il reste là avec son péché. Un homme ne peut pas voir Dieu et vivre, donc il se dit, mais c'est fini, moi, je vais mourir. Mais voilà, un signe prophétique, un ange vient avec une pierre ardente, et il touche, et il dit, une parole prophétique, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. C'est prophétique, parce qu'autrement, c'est pas valable, selon les lois de l'Ancien Testament. C'est pas valable. Mais il l'accepte parce que c'est prophétique, et parce qu'il sait que ça vient de Dieu. Et chaque fois que Dieu fait quelque chose de prophétique, c'est nouveau, c'est différent, puis ça peut nous surprendre, hein. Dire, mais comment c'est possible? Ça rentre pas dans mon cadre, ça rentre pas dans ce que j'avais prévu. Mais là, il sait que c'est Dieu. Et c'est Dieu qui le fait. Donc, ouf, il peut rester dans la présence de Dieu. Et je pense que pour nous aujourd'hui, il y a différence quand on vit dans la Nouvelle Alliance, mais c'est juste quand on est dans l'adoration d'avoir cette réaction-là. Seigneur, je suis pas digne d'être là, mais tu me purifies. C'est ton sang qui me purifie, c'est ta grâce, c'est toi qui fais l'œuvre, et je veux le reconnaître, tout à nouveau. Moi, j'ai rien fait. À moins que quelqu'un parmi nous puisse dire qu'il a fait quelque chose de plus. Mais c'est Jésus qui a tout fait. Là, c'est l'ange qui a tout fait. Isaïe, il peut juste accepter et au moins reconnaître. Et ensuite, conclusion, qu'est-ce qui se passe? Dieu parle. Ça, c'est incroyable. Dieu parle alors que lui, il sent pécheur, il sent indigne, et Dieu lui pose une question. Je ne sais pas comment vous vous attendez à ce que Dieu vous parle, mais des fois, notre image, notre imagination est faussée, et puis on est sûr que Dieu, quand il va nous parler, il y aura les éclairs, le tonnerre, tout va trembler, et puis il y aura une grosse voix qui va nous faire peur. Et puis Dieu pose une question. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu nous interpelle, et souvent c'est comme ça que Dieu parle. Dieu nous interpelle, nous pose des questions, dit, mais qu'est-ce que tu vois? Où tu en es? À beaucoup de prophètes, il pose des questions. Ouvre les yeux, regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Et puis là, il pose une question à Esaïe, puis Esaïe, il est tellement bouleversé par la présence de Dieu qu'il répond. Mais il n'a pas réfléchi, c'est pas un bon Suisse, ça. Hein? Il n'a pas calculé la dépense. Dieu lui a pas donné un programme en 3 exemplaires. Tu vas aller parler ici, tu vas faire ça, dans 10 ans tu partiras, tu seras là, non? Seigneur, j'aimerais bien voir le contrat avant. Seigneur, montre-moi les conditions pour que je voie si je signe. Avec Dieu, ça marche pas comme ça. Hein? Il y a tellement de gloire, de présence de Dieu qu'Esaïe, il est prêt à dire, j'y vais. La même chose que ce que Jean-Marc a décrit là au Kazakhstan. Ces gens ont couru à l'appel. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu, du Saint-Esprit, qui les a appelés. Ils savaient pas. Certains vont peut-être vraiment mourir. Certains peut-être pas. Ils savent pas leur programme, ce qui les attend. Mais ils ont dit, Seigneur, tu es plus grand que tout, tu as plus de valeur. Et ça, c'est une adoration qui vaut plus que tout. Qui est mieux que le meilleur des chants. Vous savez, j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup adorer, jouer pour Dieu, mais il y a des moments où les chants ne suffisent pas. Il y a plus. Dieu attend plus qu'un chant. Une femme l'avait bien compris, c'était Marie, quand elle était vers Jésus, puis qu'elle a versé le parfum. Jésus venait de ressusciter Lazare. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle avait dit avant? Elle avait dit, ouais, Jésus, si tu étais venu plus tôt, il serait guéri, hein, maintenant. Donc elle n'avait pas été très, très accueillante. Et puis là, elle dit, moi, je peux pas juste lui dire merci. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Je m'y attendais même pas. Il a ressuscité mon frère. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne, elle fait un geste prophétique. Elle donne quelque chose qui a de la valeur, qui vaut plus qu'un chant, qu'une prière, qu'une parole. Et une vraie adoration, c'est ça. Alors, on va voir la suite. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'adoration? Donc, c'est un peu les points que je vous ai donnés ici. Il y a un face-à-face. Je vais un peu trop vite. Un face-à-face avec Dieu. Vous vous trouvez face à Dieu. Et quelle va être votre réaction dans cette situation? Est-ce que vous allez fuir? Il y en a qui fuient. Dès qu'ils voient Dieu, ils partent. Ils osent pas, ils supportent pas. Parce qu'il y a deuxième chose, notre péché est mis en lumière, comme pour Esaïe. On voit bien notre impureté quand on est devant Dieu. Et certains, ils veulent pas affronter ça. Ils veulent pas régler ça. Donc c'est sûr que c'est désagréable d'être dans la louange si chaque fois que tu es dans la louange, ton péché est confronté et que tu veux pas le régler. La grâce de Dieu est nécessaire, c'est ça la bonne nouvelle. Tu dois te le rappeler, te le rappeler, te le rappeler. Et ensuite, à ce moment-là, tu peux commencer à écouter Dieu. Et c'est là qu'on entre dans ce qu'on va parler, qui est de l'intercession. Si tu intercèdes sans écouter Dieu, ça sert à quoi? Tu intercèdes ton programme, tes idées. Il faut commencer à écouter Dieu pour pouvoir intercéder selon son cœur. Parce qu'on a tous des listes de prières assez grandes avec nos besoins, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on a peut-être le temps d'écouter les besoins de Dieu, si on peut parler de ses besoins, de ses désirs? Je peux répondre à Dieu comme Esaïe l'a fait. Et ensuite, entrer dans l'intercession et l'action. Puisque sans action, l'intercession n'est pas utile. Il faut les deux. Il faut joindre l'un à l'autre, bien sûr. Intercession pour une action, pour quelque chose qu'on va faire. Et une porte s'ouvre sur le ciel. Dans l'adoration, quand tu es vraiment au genou, à genoux devant Dieu, le ciel s'ouvre. Je sais pas, quand cette vision Esaïe l'a eue, on sait pas si c'était parce qu'il était déjà en train de prier ou c'était comme ça par surprise alors qu'il se promenait. Mais je pense que c'était dans un moment où où il était dans la présence de Dieu, où il priait, où il était à son écoute. Et tout d'un coup, il y a une vision. Et dans cette vision, il y a comme une porte qui s'ouvre. C'est comme une dimension supérieure qui s'ouvre. Qu'est-ce que notre cœur rencontre? Le face à face dont je vous parlais. Notre cœur rencontre le cœur de Dieu. Quand je parle de cœur, c'est l'être intérieur, c'est une dimension spirituelle, c'est esprit à esprit, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible décrit comme le cœur. Une rencontre, un cœur à cœur, où, comme Dieu a parlé à Ésaïe, il y a mon peuple, il y a ce peuple, qui c'est qui va aller leur parler? J'ai tellement de choses à dire à ce peuple, il n'y a personne qui va leur parler. Et Ésaïe, il est touché dans son cœur pour pouvoir répondre, autrement il ne va pas répondre, il dit « bon, ben Dieu, c'est des affaires, débrouille-toi ». Mais non, son cœur est touché et il peut répondre. Alors Dieu nous partage un peu de son cœur. Et voilà la question importante. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Quels sont les désirs de Dieu? Alors souvent les hommes s'interposent pour dire « Dieu pense que, je pense que Dieu pense que, j'ai l'impression, je crois que Dieu, mais souvent on s'interfère. Mais si dans l'adoration on s'approche personnellement de Dieu, on va savoir ce que Dieu veut. Il n'a pas le même programme pour tout le monde. C'est pour ça qu'il nous a tous créés différents, à des endroits différents, à des places différentes, à des âges différents, avec des dons différents. Voilà un peu, je crois, ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Puisque Dieu a créé ce monde, puisque Dieu a créé cette terre, il va nous parler de sa terre. Alors peut-être que s'il nous met le fardeau de la planète, on va se dire, oulala, c'est grand, hein. Mais il va commencer par mettre peut-être le fardeau de ton village, le fardeau de ta famille, puis le fardeau de ton canton, peut-être le fardeau de ton pays. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui arrivent à prier pour une nation? Ça grandit petit à petit. Bien sûr que c'est trop grand pour nous, mais pour Dieu, c'est pas trop grand. C'est parce qu'on entre un petit peu dans le cœur de Dieu qu'on peut se mettre à prier pour un pays. Ou prier pour un autre pays quand on entend tous ces Brésiliens, ces Argentins, ces Costaricains qui prient pour la Suisse, qui ont reçu un fardeau, qui pleurent. On se dit, mais c'est pas possible. Humainement, c'est incompréhensible. On les a même pas payés pour ça. Hein? On leur a pas envoyé de dépliants, de lettres, de trucs pour leur dire. Non, ils ont reçu quelque chose du cœur de Dieu pour la Suisse. Et c'est pour ça qu'il faut le recevoir. Si on respecte pas, si on reçoit pas ces gens-là, mais honte à nous. Ils ont reçu quelque chose de Dieu. Alors, à partir de là, vous pouvez commencer à intercéder pour les nations. Ça part de l'adoration. Parce que ça va revenir à l'adoration. Si on intercède, c'est pourquoi? Pour que les gens connaissent Jésus. Et pour que les gens du monde entier, de tout l'univers, viennent à Dieu. Cette porte de l'amour de Dieu s'ouvre sur les nations et qu'ils puissent le rencontrer. Et qu'ensuite, c'est quoi le but? C'est qu'on ait des chrétiens de plus à l'église? Non. C'est qu'on ait des adorateurs de plus. Des adorateurs qui vont l'adorer sur la terre et ensuite dans le ciel. Mais qui vont commencer déjà sur la terre. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on commence par l'adoration. Si vous n'êtes pas un adorateur, comment allez-vous amener un autre adorateur? On n'est pas juste des clubs, un club chrétien où on veut atteindre, agrandir notre club, avoir des autres chrétiens. Le but, c'est que nous soyons tous des adorateurs afin que d'autres viennent et soient des adorateurs. Amen. On va faire une petite pause, 5 minutes, et puis après je vais prendre le deuxième message qui va aller plus loin par rapport à la prière et la suite. Voilà, je vous donne encore un deuxième enseignement et puis je vais garder un petit peu de temps à la fin. On va quand même pouvoir au moins adorer un instant ensemble pour terminer. Voilà la question que je me pose et que vous vous posez aussi sûrement. On pourrait mettre même que les 30 minutes habituelles du dimanche matin, certaines fois c'est 20 minutes, des fois c'est même moins. Là, le titre du deuxième message, louer Dieu avec maturité. Alors peut-être comprendre ce que c'est, ce que n'est pas l'adoration nous aidera peut-être à savoir ce que c'est. Ce n'est pas un concert de musique. Vous n'allez pas au concert quand vous allez à l'adoration. Vous devez vous mettre ça vous dans la tête, mais aussi les groupes de louanges, bien sûr. Puis aussi les pasteurs, puis aussi tous ceux qui comprennent un peu ce que c'est. Ce n'est pas un concert. Et des fois, ce n'est pas forcément la faute du groupe de louanges, des fois, c'est la faute du public qui s'attend à un spectacle. Ça va dans les deux sens, hein. Alors le groupe se sent obligé de faire une performance pour plaire au public. Et ça ne marchera jamais comme ça. Mais des fois, le public veut adorer, puis c'est le groupe qui fait un spectacle. Ça ne marche pas non plus. Il ne s'agit pas de critiquer l'un ou l'autre, il s'agit de comprendre que ce n'est pas ça. Il faut en parler, il faut affronter cette question et parler. Ce n'est pas une atmosphère. Ouh, je sens la louange, ouh là là, ouh. Il y a des gens qui me disent ça, ouh, c'est là. Ce n'est pas une atmosphère. Parce que si c'était qu'une atmosphère, cette atmosphère, elle peut changer. Il y a des louanges qui sont différentes d'une fois à l'autre. L'atmosphère, le sentiment qu'on ressent dans la louange n'est pas toujours le même. Il faut être prêt à cela, à voir quelque chose de différent. Donc, je me méfie toujours quand on me dit « je sens la louange ». Moi, je la sens pas tellement. Mais je la connais et je sais ce que c'est dans l'esprit. Et c'est à ce niveau-là que je travaille. Ce n'est pas une tradition religieuse. Il faut de la louange. Pour que ça marche, il faut qu'on loue. Ou à telle réunion, telle situation, on doit faire de la louange. Ce n'est pas une tradition, juste une obligation. Ce n'est pas un spectacle. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas là pour observer. Donc c'est très important. Moi qui suis souvent sur scène en train de diriger les gens, je n'aime pas... Quand les gens sont juste là en train d'observer, de regarder ce qui se passe. Bien sûr, je ne vous demande pas de fermer les yeux de la première à la dernière seconde. Ce n'est pas ça que je veux dire. Vous pouvez avoir les yeux ouverts. Mais vous n'êtes pas là pour observer tous les détails du spectacle. Par contre, si vous allez à un concert ou à un spectacle, c'est sûr que c'est ce que vous allez faire. Mais ce n'est pas le but qu'on a dans la louange. Donc, je ne suis pas un spectateur. Je ne suis pas un consommateur. Je ne suis pas là pour critiquer, ça c'est très important. Si tu n'es pas un adorateur, je me permets de te tutoyer, si tu n'es pas un adorateur, tu vas être quelqu'un qui critique. Parce que je sais, j'ai aussi déjà fait partie de cette équipe-là. Hein. Quand on est dans la salle et qu'on n'adore pas, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, et quand on regarde, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ouh là là, mais pourquoi elle a mis cette robe mauve? Mais ça lui va vraiment pas. Hein. Ah non. Tiens, ils ont changé le bouquet de fleurs. Oh, ils auraient quand même pu... non, là, ça va pas. Puis pourquoi ils ont descendu l'écran comme ça? Mais c'est vraiment bizarre. Oh, puis c'est qui ce gamin là qui fait le fou là? Ça va pas ça, non? Si on n'adore pas, on critique. On voit tout ce qui va pas. C'est très facile. J'ai même pas besoin de vous donner un cours là-dessus. Il n'y a jamais de séminaire sur la critique. Et pourtant, il y en a plein. Partout. Et un très bon exemple, c'est la question du combat de Jéricho. Quand Josué a envoyé ses troupes combattre à Jéricho, il leur a donné une seule consigne. Qu'est-ce qu'il leur a donné comme consigne? Vous ne murmurerez pas. Se taire. Parce qu'il y avait de quoi sûrement murmurer. Hein? En marchant au soleil, en Orient, autour d'une muraille, avec les ennemis qui ricanent en haut des murailles. Ouais, mais quand même, Josué, qu'est-ce qu'il lui prend? Mais quelle idée stupide, marcher autour de ses murs, mais qu'est-ce qui... C'est très facile de critiquer. Il y a toujours toutes les bonnes raisons de critiquer. Mais quand Dieu donne quelque chose, quand Dieu donne un ordre et qu'il faut le faire, il faut obéir et marcher dedans. Et si Dieu nous demande d'adorer, notre rôle c'est d'adorer, c'est pas de critiquer, d'observer. La louange ne me tombe pas dessus par miracle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un choix. Vous devez choisir de louer Dieu. On en revient, je disais tout à l'heure, une question de choix personnel, quelles que soient les circonstances ou les situations. Entrer dans la maturité, c'est, bien sûr que je parle de l'adoration, mais bien sûr que c'est valable pour beaucoup d'autres domaines de la vie chrétienne, mais spécialement par rapport à l'adoration. Sortir de mon égoïsme. Vous ne pouvez pas être égoïste puis adorer Dieu. Si vous êtes égoïste, vous allez être centré sur vous-même. Et c'est ça qui va vous poser un gros problème pour l'adoration. Parce que vous dites, oh mais Seigneur, je ne suis pas très bien. Tu vois, Seigneur, tu sais, tu connais. Bien sûr qu'il sait, qu'il voit et qu'il connaît. Puisqu'il est tout puissant, qu'il sait tout. Donc il n'y a pas besoin de lui dire ça. Et puis on reste centré sur nous-mêmes. Je ne peux pas, j'ai ci, j'ai ça. À un moment donné, il faut laisser tomber ces choses-là. Laisser tomber votre égoïsme pour pouvoir vraiment entrer dans l'adoration. Laissez tomber l'orgueil. Bien sûr que Dieu, celui qui s'élèvera, sera abaissé. Dans l'adoration, celui qui reste debout, prétentieux, sûr, imbu de lui-même, il ne va pas pouvoir continuer d'adorer. Il y a un moment dans l'adoration, même si vous ne le faites pas physiquement, vous devez fléchir. Vous devez vous prosterner, si ce n'est pas physiquement, c'est en tout cas dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre volonté, vous devez fléchir. Et c'est pour ça que l'adoration est tellement importante. Parce que les chrétiens ont de la peine à fléchir devant Dieu. Et l'adoration nous rappelle ça. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne. Parce que bon, quand on se convertit, on se tourne vers Dieu, normalement, c'est parce qu'il y a un appel, parce qu'il y a beaucoup de... Il se passe quelque chose, vraiment, on accepte de fléchir devant Dieu. Mais souvent, il y a un combat, n'est-ce pas? C'est rare qu'une conversion, ça arrive comme ça, instantanément. Il y a un combat, une lutte en soi, jusqu'à ce qu'on dise, je fléchis, je renonce à moi-même, je donne ma vie à Jésus. Puis après, bon, on pense que c'est bon. On continue avec Jésus, c'est bon, maintenant j'ai fléchi le genou une fois. Mais ça doit revenir absolument, régulièrement. Et l'adoration nous rappelle ça. Chaque fois que moi j'adore Dieu, ça me rappelle, ah oui, c'est lui le maître, c'est lui sur le trône. Moi je fléchis le genou devant lui, je me prosterne devant lui. Laissez tomber le troc. Le troc, qu'est-ce que c'est? C'est les affaires, c'est le monde des affaires, de l'échange. Et il y a beaucoup de chrétiens qui font du troc avec Dieu. Qui font des affaires avec Dieu. Seigneur, je te loue, mais alors tu me bénis. Hein. Alors vraiment, je vais bien te louer, mais je t'assure que je vais chanter, mais de tout mon cœur. Mais alors là, il faut que tu me répondes. Il faut que tu me bénisses. J'ai droit à ça. Et on en revient à la question des droits. On fait de l'échange, on fait des affaires avec Dieu. Seigneur, si tu me donnes ça, ou bien on demande même pas ça, on dit, moi je te donne ça, donc tu dois me donner. C'est nous en même temps qui décidons de l'affaire. Mais ça marche pas avec Dieu. Dieu ne se fait pas avoir comme ça. Il ne va pas répondre à votre troc. Le troc, c'est exactement la spécialité du diable. Le diable est passé maître dans les affaires. Et vous savez comment il a fait avec Jésus? Il a essayé de faire une affaire avec Jésus. Vous vous souvenez de cette histoire? Hein? Où il a parlé avec Jésus. Dans Matthieu 4, il y en a plusieurs textes aussi. Il cherche à faire une affaire avec Jésus. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Je vais te donner tous les royaumes de ce monde si tu te prosternes devant moi. C'est assez incroyable, ça. Satan pense qu'il va avoir Jésus en lui proposant une affaire comme ça. Et encore une fois, c'est une affaire financière, une affaire de bonheur, de bien-être, de succès. On en revient toujours aux choses humaines. On veut y arriver, on veut être le meilleur, on veut être le plus beau, on veut être le plus fort. Et puis on demande même à Dieu de nous donner ça. Alors que nos motivations sont égoïstes, sont mauvaises. Vous croyez que Dieu va répondre à ça? Vraiment pas. Si Dieu nous bénit, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas parce qu'il veut qu'on soit le meilleur, qu'on écrase tout le monde. Il veut surtout pas ça. Donc là, si c'est notre attitude, si notre cœur, il va nous abaisser. Et on doit apprendre à laisser tomber cette idée de troc. Et il y a eu malheureusement toute une période dans l'Église où on a cherché à faire des affaires avec Dieu. Et encore maintenant, on vient à Dieu, on dit, je viens à toi, je te loue. Et puis on est sûr que Dieu va nous donner une chose personnelle. Si Dieu nous bénit, mais c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est merveilleux. Et souvent, très souvent, très très souvent, ça se passe. Merci Seigneur. Combien de fois j'ai été béni en louant Dieu? Mais j'aime beaucoup mieux le faire gratuitement, sans m'attendre et le recevoir comme un cadeau. Que de vouloir absolument attendre une certaine bénédiction dans un certain domaine, dans un certain secteur, d'une certaine manière. Et très souvent être déçu parce que je n'ai pas eu ce que je voulais. Et parce que mon désir était faux, était mauvais. Donc, cherchez pas à faire du troc avec Dieu. Ça marchera pas. Et là, vous tombez dans un secteur que le diable contrôle beaucoup trop bien. Laissez tomber la critique, comme on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez pas adorer, être un vrai adorateur, être quelqu'un qui critique, critiquer. La même chose pour l'intercession, d'ailleurs. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est un fondement. Comment voulez-vous prier pour votre pasteur si vous êtes tout le temps en train de le critiquer? Comment voulez-vous prier pour votre nation si vous critiquez son gouvernement, son fonctionnement, sans arrêt? À un moment donné, il faut changer notre langage. Reconnaître des erreurs, reconnaître des torts, c'est d'accord. Mais il y a une grande différence. Et je crois qu'on la connaît, cette différence. Grandir, aller plus loin que ce que je connais et ce que je sais. C'est ça la maturité, c'est-à-dire on n'est jamais arrivé. Le moment où on croit qu'on est arrivé, c'est là où on est le plus en danger. Et spécialement dans la louange, je vois certaines églises, comme je voyage pas mal dans beaucoup de dénominations d'églises, j'entends beaucoup de choses, il y a des fois on me dit, mais tu sais, nous dans la louange, on fait ça, 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 on est arrivé là, on en est là, alors je pense qu'on va t'en montrer, quoi. Je dis, ok, ben c'est bien, j'espère découvrir quelque chose chez vous. Mais le danger, c'est de croire qu'on est les meilleurs. Croire que nous, on a compris, que ce soit dans la louange, dans l'intercession, dans la délivrance, dans n'importe quel domaine. Et c'est un grand danger. Et il faut qu'on puisse aller plus loin. Et au moment où on arrive à un stade où on dit, voilà, la louange, c'est 30 minutes, c'est bon. Quand on fait 30 minutes, on arrive au cœur de Dieu et c'est bon. Des fois, ça marche en 30 minutes. Mais des fois, il nous faut beaucoup plus de temps que ça. Et des fois, il en faudra peut-être même moins. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de cœur. C'est une question d'attitude. Alors, dépassez ce que vous connaissez. Si vous dites, ben moi, je sais bien louer Dieu une demi-heure, essayez de louer 40 minutes. Si vous savez bien louer Dieu 10 minutes, essayez de louer 15 minutes. Allez toujours plus loin, même dans le temps, mais aussi dans l'expression. Si vous savez louer Dieu en étant debout, essayez de louer Dieu à genoux. Si vous savez louer Dieu en levant les mains, essayez de louer Dieu en baissant les mains. Essayez de faire des autres choses que tout ce que vous savez faire. Dans une église, j'ai dit, on va essayer d'apprendre un petit peu à bouger. On va enlever toutes les chaises. On a enlevé toutes les chaises. Vous savez ce qui s'est passé? À peine ils ont enlevé les chaises, ils sont remis exactement à la même place où il y avait leurs chaises. Il n'y avait plus de chaises, mais ils sont remis sur le mètre carré qu'ils avaient défini comme étant leur territoire. J'ai dit, ben maintenant, on va faire un mètre en avant, un mètre en arrière. On va essayer d'explorer. C'était physique, c'était un exercice, bien sûr. Mais ça nous montre que souvent, c'est notre mentalité. Entrer dans la maturité, c'est m'abandonner à Dieu. Dans l'adoration, c'est ce qu'on fait. Seigneur, je m'abandonne à toi. Et beaucoup de gens ont peur de lâcher. Peur de lâcher. Mais qu'est-ce qui va m'arriver si je lâche? Qu'est-ce qui va m'arriver si je m'abandonne à Dieu? Dieu va sûrement m'envoyer en Afrique. Oh, puis moi qui n'aime pas les araignées, non, c'est pas possible. Ça, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Je crois que Dieu, il est assez bon pour avoir des autres idées que ça, hein? Des bien meilleures. Et c'est lié à cette deuxième chose, laisser tomber le contrôle. Tant que vous contrôlez, vous ne pouvez pas laisser Dieu agir. Que vous contrôlez vous-même, vos émotions, toutes choses, ou bien les autres, ou bien le système, ou bien la louange, ou bien la manière dont la louange va être faite, si vous êtes vous-même dans la louange, ou si vous êtes responsable sur un groupe de louange. Laissez tomber ce contrôle-là, à un moment donné. Ce n'est pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais c'est aussi une attitude de cœur. Laissez tomber mon propre désir de me réaliser. Je dis ça, ça revient un peu à la question du troc. Des fois, on veut tellement louer Dieu pour être bien. Ah, je suis bien quand je loue Dieu. Je me sens bien. Et c'est comme presque un trip, excusez-moi l'expression, un voyage quand on parle de la drogue. On plane un moment, puis après on retombe sur terre. Oh là, c'est dur. Avec Dieu, là, je me réalise, je suis bien. Et puis tout d'un coup, la réalité est hyper dure. Je suis pas bien. Entrer la maturité, c'est laisser tomber ce désir-là, puis c'est laisser Dieu faire. Dieu va le faire. Laisser tomber mes goûts personnels, je parlerai de toute la question de l'adoration, parce que des fois, il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui ne nous plaisent pas. On n'aime pas ce chant, on n'aime pas cette personne, on n'aime pas cette danse, on n'aime pas ce style, on n'aime pas je ne sais pas quoi. Et on fait passer nos goûts. Même certaines fois, j'entends des gens qui disent « Dieu n'aime pas ça ». C'est comme si on disait « Dieu n'aime pas le vert ». Je sais que Dieu, il aime bien le bleu, le rouge, mais le vert, il n'aime pas. Si Dieu a créé toutes les couleurs, est-ce qu'il y a une couleur qu'il n'aime pas? Donc, dans la musique aussi, on fait beaucoup passer nos goûts pour les goûts de Dieu. Faisons attention à notre manière d'exprimer ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. On peut dire « Moi, je n'aime pas ce style, mais je reconnais que Dieu utilise, ou Dieu se sert, ou que Dieu est là, ou que Dieu n'est pas là. » C'est vrai, on peut le discerner parfois. Mais en tout cas, faisons le pas avec une question de goût personnel. Qu'est-ce qui détourne l'adoration? Encore une fois, là, je vous montre un peu les pièges, mais ça nous aide à comprendre ensuite ce que c'est. Qu'est-ce qui détourne l'adoration? Le perfectionnisme. Il m'a fallu longtemps pour comprendre ça, mais en Suisse, on est très fort pour être des perfectionnistes. On apprend ça à l'armée, on apprend ça aux écoles ménagères, on apprend ça partout. Et puis après, on reporte ça sur Dieu. On pense vraiment que Dieu est perfectionniste. Et Dieu nous demande d'être excellent. Dieu nous demande d'être bon. Mais il ne nous demande pas un perfectionnisme qui nous tue. Parce que ce qui va avec le perfectionnisme, c'est tous les problèmes qu'on ajoute. C'est la méchanceté, c'est la colère, c'est la haine, c'est la rancœur, c'est Et ce que je dis, c'est valable pour les groupes de louanges ou à l'intérieur du groupe de louanges. On est tellement perfectionniste qu'on s'en veut, qu'on se fâche les uns contre les autres parce qu'il y en a un qui a fait une fausse note ou qui a chanté de travers, ou qui a loupé un mot. Et puis on est fâché l'un contre l'autre. Comment voulez-vous adorer Dieu? Moi, je vois des groupes de louanges qui s'envoient des éclairs avec les yeux parce qu'il y en a un qui fait une faute. Alors, on a le droit de travailler et de se corriger. Et puis, amen pour ça. Moi, je travaille mes chants, je les apprends, j'ai fait des études de musique pendant de nombreuses années, donc j'essaye d'être le mieux possible, mais je fais encore des fautes. Il y en a peut-être qui seront déçus de l'entendre, mais je fais encore plein de fautes. Je fais encore des fausses notes. Des fois, je me trompe dans une parole. Des fois, j'ai la voix qui déraille. Je ne cherche pas la perfection, je cherche l'adoration. Et il y a une grande différence. Et à un moment donné, on arrive toujours à... On monte les deux niveaux, la technique, l'adoration monte. Et à un moment donné, il y a comme un conflit entre les deux et on doit faire un choix. Est-ce que je veux entrer dans l'adoration ou dans la perfection? Dieu me dit de faire un chant ou d'entrer dans cette dimension. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas le jouer. Je ne suis pas capable de le chanter. J'ose pas chanter, improviser quand même ma voix. Mais et puis on s'arrête à cause de la perfection. Puis on n'entre plus dans l'adoration. Et c'est valable pour n'importe qui d'entre nous. Ça détourne l'adoration à quelque part le perfectionnisme. Donc faisons attention au perfectionnisme. Et je parle surtout particulièrement aux musiciens, tous ceux qui sont impliqués dans la louange, aussi peut-être les danseurs ou les artistes. La satisfaction personnelle, on y revient. Le but de vouloir vraiment se satisfaire dans la louange. Je viens dans cette louange parce que c'est ça que j'aime. J'aime ce groupe-là de louanges parce qu'il correspond à mes goûts, à mon style. Mais l'adoration, c'est pas un groupe, c'est pas un style. Et je trouve que maintenant, des fois, on diversifie trop. On dit, ça, c'est une louange comme ça, c'est une louange comme ça. Il y a la louange ci, il y a la louange ça. Et on met des catégories, des étiquettes. Moi, j'aime la louange comme ci, j'aime la louange comme ça. Ok, si tu aimes selon tes goûts, mais ne cherche pas à te satisfaire. Peut-être que Dieu peut te rejoindre dans quelque chose qui correspond pas à tes goûts, mais il va te parler là au milieu. Parce que c'est lui qui est là au-delà du style. Adorer la musique ou le style musical, c'est ce que je viens de vous dire en gros. Certaines personnes, je les entends dire, « Ah, moi j'adore cette musique, j'adore cette louange. » C'est très subtil, hein. C'est ça exactement, une séduction, un détournement. Satan, il dit, « Bon, tu aimes adorer, ben on va juste te faire dévier d'un tout petit peu. » Il va se dire, ah, voilà, il faut que tu aimes ce groupe, ils sont tellement merveilleux. Il y a des gens, ils adorent des groupes de louanges. Ouais, exactement, on adore Dieu et pas la louange, ou pas le style de louange ou le groupe de louange. Alors quand on vient de me dire après un moment de louange, ah, j'ai adoré cette louange, je dis non, c'est pas juste, c'est pas ça. J'espère que tu as adoré Dieu, je veux pas que tu adores la louange. Faut pas adorer la louange, faut adorer Dieu. Il y en a même qui vont jusqu'à adorer l'église ou la dénomination. Je me sens bien là. J'adore cette église. J'adore ce mouvement. J'adore ces enseignements. Peut-être que c'est que des mots, mais dans le fond, ça veut bien dire quelque chose. Hein? Adorer la louange, tu vois, je l'avais mis, donc tu as anticipé. Attendre l'approbation des hommes, ça c'est valable pour tous ceux qui pratiquent la louange. Souvent, quand on chante, quand on joue, quand on conduit, on attend qu'il y a une réponse des hommes, mais ce n'est pas cette approbation-là dont vous avez besoin. Adorer en attendant de faire autre chose. Combien de fois j'entends ça dans les églises? On va chanter en attendant que... En attendant que les derniers arrivent. On va chanter en attendant que le pasteur vienne. En attendant que les enfants sortent. Pendant que si, pendant que ça, pendant que si, pendant que ça. Puis finalement, on fait la musique, je dis bien la musique, pour toute autre chose que pour adorer Dieu. On utilise, c'est un moyen, c'est très pratique pour celui qui préside. Ben, allez, chantez vite quelque chose là, en attendant. Parce qu'on peut quand même pas rien faire, hein. Je m'excuse auprès déjà des présidents, mais quand moi je vais à conduire ou animer un temps de louange, je leur dis, écoutez, je suis là pour adorer, donc je vais pas faire l'animateur. J'aurais très bien pu faire ça, je l'ai fait dans d'autres occasions, si c'est un mariage ou une soirée, gentil, d'accord, on fait de l'animation, on remplit les trous, on fait ça. Mais c'est pas le cas de l'Église. L'Église est là, elle se rassemble pour adorer Dieu, n'est-ce pas? Donc, donnons du temps, on dit maintenant c'est un temps pour l'adoration. C'est pas un temps pour que on fasse plein d'autres choses. Alors je préfère attendre dans le silence, on va attendre que les derniers arrivent, ou bien on va laisser les enfants sortir, pendant ce temps on va se saluer, on va parler, on va faire quelque chose. Mais c'est difficile de faire deux choses en même temps. Donc si vous faites sortir les enfants, que vous adorez, que vous faites les annonces en même temps, il y aura de toute façon quelque chose qui ne va pas marcher. Hein? Ou plusieurs choses qui ne vont pas marcher. Donc il faut faire cela. Adorer quand cela nous arrange. Bon, j'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. On ira plus loin. Il y a un combat pour l'adoration. Parce qu'il y en a un qui aime aussi l'adoration et qui la veut absolument, c'est Satan. Satan, il veut tellement l'adoration qu'il a dit à Jésus, je te donnerai tous les royaumes de cette terre, toutes les puissances, si tu te mets à genoux et tu m'adores. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut de Jésus? Il veut tout. Puisqu'il est prêt à tout lui laisser. Il fait un troc avec Jésus, il lui dit, je te donne tout si tu me donnes l'adoration. Vous imaginez ça? Moi, j'essaie de voir cette scène. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo, vous n'avez pas vu, vous? Vidéo de campus, là, on voit ça, le diable qui s'approche. Il dit, donne-moi, donne-moi, moi je te donne tout ça. Et Satan, il avait déjà des moyens incroyables pour présenter à Jésus toutes les choses. Il a cherché à lui montrer toutes les puissances, les royaumes, et l'impressionnait avec tout ce qu'il avait. Regarde tout ce que je peux te donner. Tu seras riche, tu seras puissant, tu seras fort. Tu pourras faire une belle église et un peuple chrétien incroyable avec tout ça. Je te demande qu'une seule chose, à genoux. Deux secondes. Il n'y a personne qui nous voit. Personne qui nous regarde. Il n'y a même pas de vidéo pour filmer. C'est juste entre toi et moi. C'est ça le test. Le test entre la louange, la vraie adoration. Et puis juste chanter un petit peu. Hein. Il y a un combat pour vraiment adorer. Et pour tenir ferme, dire non, ce que Jésus a dit, il a dit quoi? Non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. C'est tout. On ne peut pas faire de compromis avec l'adoration. Et c'est le plus grand danger qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on adore toutes sortes de choses. On adore Dieu, mais on mélange Dieu avec tout le reste. Et c'est là que c'est pour ça que notre adoration ne va pas très loin, elle n'est peut-être pas très profonde. Alors, l'ennemi déteste la louange, on pourrait aussi dire qu'il aime la louange. Il aime la louange pour lui, il déteste la louange des chrétiens. Il la déteste vraiment. C'est pour ça qu'il y aura toujours un combat pour développer la louange d'une manière ou d'une autre, dans votre église, dans votre vie personnelle. L'ennemi cherche à nous détourner du but, donc s'il n'arrive pas à stopper l'adoration, il va juste la détourner, comme je vous ai montré tout à l'heure, un tout petit peu à gauche, à droite, vers l'église, vers les hommes, vers le groupe de louange, etc. Si tu n'adores pas Jésus, qui adores-tu? En nous, il y a en nous tous le désir d'adorer, le besoin d'adorer. On est créé pour adorer. Donc si on n'adore pas Jésus, on va adorer autre chose, ou quelqu'un d'autre. Peut-être des choses qui en soi sont pas si mauvaises, puisque c'est Dieu qui les a créées. Mais si ça prend la place de Dieu, ben c'est plus juste. Donc c'est très facile de savoir qui tu adores. Tu te poses cette seule question. À qui est-ce que tu donnes ton temps, ton argent, tes loisirs, tes pensées? Tu as la réponse à ta question. Celui que tu adores, tu lui donnes tout. Combattre l'humanisme. L'humanisme, c'est la question justement de mes droits, mes désirs, mes, moi, moi, moi. Des fois, quand j'écoute les chants de louange de loin, j'entends moi, moi, moi. De temps en temps, Dieu, moi. Moi. Il y a plus de moi que de Dieu. Donc pour moi, ce n'est pas de l'adoration quelque part. Bénis-moi, remplis-moi, touche-moi, moi, moi, moi. Je deviens Dieu, et puis Dieu, de temps en temps, oui, Dieu. Oh Dieu. C'est un peu odieux, ça. L'adoration confronte mon péché, on l'a vu avec Ésaïe. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un combat. Alors, est-ce qu'on veut être déterminé, laisser l'adoration confronter notre péché et le déposer, le lâcher? L'adoration révèle ma relation avec Dieu et avec les hommes. Si je suis mal avec Dieu, j'ai de la peine à adorer, c'est normal. Mais aussi, si je suis mal avec les hommes, si dans l'église je critique tout le monde et que je suis mal avec eux, ça sera dur d'être devant, de lever les mains et puis de louer. Et c'est sur ce texte de Matthieu 5, 23-24 qui nous dit, si tu veux apporter ton offrande, mais que tu te rends compte que tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande et va te réconcilier. Donc ça, c'est la relation avec les frères et les sœurs. Tu ne peux pas adorer si tu n'es pas réconcilié. Mais c'est bien pour ça que des fois, le dimanche matin, l'adoration, elle décolle pas d'une semelle, hein. Ça bouge pas 2 centimètres parce que y a tellement de brinques, de critiques, de choses dans l'église que c'est pas possible. Tout simplement pas possible. On chante du bout des lèvres et puis on n'est même pas en paix avec Dieu automatiquement. Si on pardonne pas aux autres, on peut pas être en paix avec Dieu. Alors il faut comprendre ce que Dieu attend de moi pour pouvoir l'adorer vraiment. Je suis né pour le louer. Vous connaissez ce chant? Éphésiens 1 nous dit ça. Dans ce texte, il est dit 3 fois que Dieu nous a créés pour servir à la louange de sa gloire. Donc ça peut vous aider de savoir que vous pouvez pas vous tromper si vous louez Dieu. Quelqu'un m'a dit ça une fois, ça m'a beaucoup aidé. Tu peux pas te tromper. Tu peux faire une fausse note, tu peux chanter faux, mais tu te trompes pas si tu loues Dieu parce que tu es créé pour louer Dieu. C'est bon pour mon équilibre spirituel. Vous pouvez faire un régime spirituel comme ça, de louange. Ça sera très très bien pour votre équilibre. Je suis capable de le servir et de lui obéir. Je suis capable. Souvent, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais moi, tu sais, je suis pas assez bien, assez ci, assez ça. Vous êtes capable. Dieu vous a créé capable. Vous respirez. Vous êtes digne de louer Dieu. C'est tout. Toutes les autres exigences que vous rajoutez, oui, je lis pas assez ma Bible, je prie pas assez, je suis pas assez bon chrétien, etc., etc., c'est toutes des mensonges que l'ennemi vous met, vous obstrue pour vous empêcher d'être des adorateurs. Dieu attend mes louanges. Ça, c'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Dieu attend vos louanges. Et, je dirais d'une autre manière, personne ne peut louer Dieu à ma place. C'est très important, ça. Vous pouvez demander à quelqu'un d'intercéder pour vous. Demandez à quelqu'un, prie pour moi, j'ai cet examen, j'ai ce travail, j'ai cette difficulté, j'ai ce voyage. Vous ne pouvez pas dire, ah, d'ivoire, loue Dieu pour moi, j'ai pas le temps cette semaine. Hein? Vous ne pouvez pas? Vous ne pouvez pas? Il n'y a que vous qui pouvez louer Dieu pour vous-même. Je donne un exemple tout pratique. Avec mes 4 enfants, j'ai 4 enfants. Si je pars quelques jours, je rentre. Quand je rentre, j'attends d'avoir une communication avec chacun d'eux, n'est-ce pas? J'attends de parler, j'essaie de les voir l'un après l'autre, puis de communiquer quelque chose. Si y en a un qui vient dire, hey, tu sais, il y a mon frère qui te dit qu'il n'a pas le temps de te voir, il est dans sa chambre, mais il te salue bien, papa. Je serais pas très très content, quoi. Hein? Je vais même peut-être aller voir dans sa chambre pour dire qu'est-ce qui se passe. C'est moi qui vais faire le pas. Puis c'est souvent ce qui se passe avec Dieu, c'est que Dieu vient nous chercher là où on en est, même si nous on veut pas le voir. Mais il attend en retour de notre bouche une louange. Chacun, alors vous souvenez de ça, les CD, c'est pas pour Dieu. Petite parenthèse. Parce que des fois, les gens disent, moi j'ai pas le temps de louer. Écoute ce CD, Seigneur, il est beau, hein. Dieu n'a pas de Walkman, il n'écoute pas les CD. C'est pour qui les CD? C'est pour nous. C'est nous que ça aide. Et j'espère que ça nous aide, on les écoute et ensuite on entre dans la louange. Puis après on arrête le CD puis on continue, j'espère. Ou on chante avec le CD, mais c'est très bien. C'est pour nous. Et je sais de quoi je parle, j'en fais pour moi aussi. J'en fais pour nous, mais pas pour Dieu. Je veux pas les envoyer à Dieu dire écoute ça, c'est pas mal, non? C'est pas pour Dieu. Dieu aime mon adoration. Comme un père aime entendre un mot de ses enfants, un mot gentil. Il n'y a pas besoin d'attendre Noël ou son anniversaire pour lui donner un petit mot, une petite carte, surtout pas. La relation, elle serait pas très bonne. Communiquez avec votre père. Dieu attend l'adoration en vérité. Jean 4, verset 24. C'est ce que Jésus répond à la femme samaritaine. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire, pour les Juifs, ça veut dire, je vis dans la vérité. Ce que je chante, ce que je dis, je le vis. Et ça, c'est un grand problème aujourd'hui. Parce qu'on est influencé d'une manière tellement forte par la pensée grecque qui sépare les choses. Ça, c'est ta vie spirituelle, une petite boîte. Ça, c'est ta vie professionnelle, une petite boîte. Ça, c'est ta vie sentimentale, une petite boîte, etc. Puis on sépare. Et on n'est pas dans la vérité. On est dans la vérité dans le domaine spirituel, puis dans les autres domaines, on n'est plus dans la vérité. Dieu englobe tous ces domaines-là. Adorer Dieu en vérité, ça veut dire « Père, je t'adore », ça veut dire « Père, je t'obéis lundi matin. Je te sers mardi. Je veux te suivre mercredi. Je veux t'écouter. On continue. Pas juste le dimanche ou pas juste dans la louange. Adoration en esprit, pas juste avec notre raisonnement. Ouh, oh là là, il faut que je fasse une belle prière. Ouh, il y a beaucoup de monde ce matin à l'église, ils vont m'entendre. Ouh, quelle prière je pourrais faire. puis on formule, on réfléchit, on met les bonnes virgules, les bonnes intonations au bon moment. C'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est dans ton sein, c'est à l'intérieur de toi, tout d'un coup, il y a quelque chose qui doit sortir, il faut que je dise quelque chose à Dieu. Des fois, j'ouvre ma bouche, je sais même pas ce que je vais dire, mais je veux communiquer quelque chose à Dieu. Et ça sort. C'est ça la dimension spirituelle. Puis bien sûr, avec le don des langues hein, aussi. Puis ensuite, la relation avec le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père. On s'arrête souvent sous l'esprit de la vérité, c'est juste, mais on adore qui? On adore le Père. Le Papa, le côté relationnel. Et là, il y a un grand problème aussi où le diable a mis le paquet pour briser les pères, pour éloigner les pères. Avec le monde du travail qu'on a, on n'a plus de pères qui sont là. Avec les divorces, avec toutes les difficultés qu'il y a, les pères sont éloignés, sont enlevés, sont ôtés. Puis après, quand on va avoir une relation avec Dieu le Père, eh ben on a un gros problème. Parce qu'on ne connaît pas le Père. Donc, il faut déjà être guéri de cette relation humaine, bien sûr. Mais il faut aussi changer notre mentalité pour savoir que le Père, c'est un vrai Père. La suite. Vous pouvez tous le lire. Plus fort. 1, 2, 3. Je suis. C'est vrai. Vous êtes tous. Dieu a fait de moi. Vous pouvez lire. Dieu a fait de moi un prêtre, un sacrificateur, un lévite. On va lire ce texte. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça, c'est pour vous que Dieu l'a écrit. Moi, souvent, quand je lisais la Bible, je pensais à d'autres. Je disais, ça c'est vrai, ça correspond à tel pasteur, à tel ministère, à telle personne. Mais tout d'un coup, j'ai commencé à prendre la Bible pour moi. Puis je dis, Dieu l'a écrit pour moi et c'est pour toi aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez vous en souvenir. Vous êtes des sacrificateurs. Alors, qui c'est le meilleur sacrificateur, bien sûr? C'est Jésus. Là, je vous mets quelques références. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce qu'on entrerait dans une grande étude biblique, mais vous pouvez noter au moins les quatre références tirées de Hébreu, parce que Hébreu exprime bien la question du sacrificateur, ce qu'il fait, quel est son rôle. Donc, vous pourrez reprendre ces textes d'Hébreu 7, 8 et comprendre. Je m'arrêterai sur le dernier. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui ait aussi quelque chose à présenter. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit présenter des choses matérielles, chercher de nouveau à aller offrir des bœufs, des agneaux et des tourterelles en sacrifice, mais notre vie, nos dons, nos talents sont les sacrifices du Nouveau Testament. Donc, pensons à Jésus, c'est notre exemple, suivons-le dans son rôle de sacrificateur. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour tous les hommes. Avec amour et pardon, il écoute le Père et il offre des sacrifices de louange et d'intercession. C'est notre rôle, les deux, louange et intercession. Dans le Nouveau Testament, le sacrifice n'existe plus en tant que tel, en tant qu'animal versé avec du sang. Mais on offre un sacrifice. On va passer au point suivant. Ça a été trop vite. Le temps file, je suis désolé. J'arrive pas à revenir en arrière. Donc Jésus est notre exemple, suivons-le vraiment, assis à la droite du Père. Donc Dieu nous donne cette position spirituelle. Hein. Anna a écrit ce livre, Anna assis dans les lieux célestes avec Christ. Bon, la traduction n'est pas très bonne en français, mais vous avez compris le thème. En tout cas, on est assis dans les lieux célestes avec lui pour intercéder pour tous les hommes, pour voir comment Dieu voit les choses. C'est ça l'intercession, prier avec Dieu. Aimant et pardonnant, parce que si tu n'aimes pas les gens, tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas prier et intercéder. Écouter le Père, surtout. Et puis offrir des sacrifices de louange et d'intercession. Dans le Nouveau Testament, c'est ça les sacrifices. Jésus a été percé, blessé, tué. Il a donné son sang afin qu'il n'y ait plus besoin d'autres sacrifices. Et afin que maintenant on donne des sacrifices de louange et d'intercession. Et on arrive à la page suivante, cette fois. Je suis un sacrifice vivant. Vous pouvez le dire? Je suis un sacrifice vivant. C'est Romains 12, verset 1 qui nous le dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je me suis posé la question, c'est quoi un culte raisonnable? Si vous posez la question, un bon chrétien, bon vaudois, bon réformé, c'est quoi un culte raisonnable? Il va vous dire, que ce soit pas trop long, que pas trop fort, et puis que le ministre parle pas trop longtemps, hein? Mais la Bible, elle dit quoi du culte raisonnable? C'est ça. Vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est tellement important. Parce qu'il y a des gens qui veulent se sacrifier pour Dieu. Oui, je fais un sacrifice. Je me tais pendant une heure. Je reste tranquille. Hein? Je suis gentil, j'écoute. Mais c'est pas ça un sacrifice vivant. Dieu veut pas un sacrifice mort. Il veut pas un sacrifice silencieux. Sacrifice vivant. Ça fait toute la différence. Vous êtes vivant là. Wouhou! C'est bien. Donc, vivant pour Jésus. Fini la mort. Fini la mort dans l'église. Vivant avec ta bouche, ton corps, tes pieds, tes mains, tes dents. C'est pour ça que quand il y a la vie de Dieu qui revient dans l'église, ben ça bouge. C'est inévitable. Vous pouvez pas avoir la vie, puis en même temps le calme, et puis pas de bruit. Hein? Quand on dit aux enfants, Didier, les enfants, ça c'est la vie. Hein? Mais essayer de faire tenir un enfant tranquille 5 minutes, sans bouger, sans rien dire, sans rien faire, c'est vraiment un sacrifice. Hein? Un supplice. Un supplice pour un gamin. Eh bien, parce qu'il est plein de vie. Bien, quand il y a la vie dans l'église, c'est normal, ça bouge, ça fait du bruit, ça fait de la poussière, ça fait du chenille, mais il y a la vie au moins. Si vous voulez la vie, hein. Pour le louer, donc vivant, pour le louer, l'adorer, le servir, témoigner, obéir. Si on est vivant, c'est pour faire ça. C'est pas pour se taire, rester dans son coin. Oh, la foi, c'est une chose personnelle. Je la garde dans mon cœur. Ça me regarde que moi. Non, si tu es vivant, ça s'exprime. Avec ces choses-là, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est un verset de l'Ancien Testament, mais qui fait référence déjà au Nouveau. Un verset prophétique qui nous parle justement que les sacrifices, c'est pas juste dire « je fais un sacrifice pour Dieu, je vais au culte ». Je fais un sacrifice, je veux quand même prier. Ouais, parce que hein, je suis comme chrétien, il faut quand même que je me sacrifie un peu. Je sacrifie mon jogging par un moment de prière. Non, c'est pas ça. Un sacrifice, c'est dire, je prie en toutes circonstances. Je m'offre à Dieu, je l'écoute, je le sers dans tout ce que je suis. Alors, soyez vivants pour Jésus. Vivants pour Jésus. Amen. Alors, on va terminer par un temps de louange. On va s'approcher à Dieu et puis on va prier, chanter et louer.